Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue évidemment au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire avec les badistes, comprenez les joueurs de badminton de la critique, Patricia Martin des Petits Matins du Week-end de France Inter, Olivia de Lamberterie, Duel, Arnaud Vivian de Transfuge, de Regards et de la Revue Charles et avec l'honorable, respectable, très amaigri Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française pour parler ce soir d'une partie de badminton et d'Olivia Adam du Continent de la Douceur d'Aurélien Bélanger de la Clé USB de Jean-Philippe Toussaint d'une Bête au Paradis de Cécile Coulon et de Rien n'est noir de Claire Bérest. Et j'espère que vous aurez un premier roman à conseiller en cette rentrée littéraire à la fin de l'émission. Dans le courrier de la semaine, beaucoup, beaucoup de réactions après Le masque et la plume où il fut question du roman de Yann Moix, Orléans chez Grasset. Je rappelle que l'émission avait été enregistrée le 14 août avant que par voie de presse son père José et ensuite son frère Alexandre infirment l'idée selon laquelle Yann Moix aurait été un enfant martyr. Une pure affabulation selon le père, les corrections qu'il écopait de mon père, ajoute Alexandre, faisaient suite aux sévices bien réels qu'il m'infligeait de témoignages qu'avaient lus nos auditeurs au moment le 25 août où le masque fut diffusé. D'où leur réaction très vive. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que cette émission littéraire est enregistrée le 29 août et qu'elle sera diffusée le dimanche 8 septembre. Je dis ça parce que dans cette affaire, comme tout change tous les jours, heure après heure, je ne sais pas ce qui va se passer avant la diffusion du prochain Masque et la Plume. Donc, m'écrivent notamment Laurence Garel, mais comment, chers masqués et plumés, avec vos intelligences et vos sensibilités, n'avez-vous pas saisi la manipulation de Yann Moix dans son dernier roman? Comment pouvez-vous parler de résilience pour un homme qui recherche la haine pour mieux exister? Nicolas Honecker de Mont-de-l'Ange en Moselle, vous semblez avoir une lecture au premier degré de ce livre. Or, les dernières interventions de la famille Moix laissent un sentiment désagréable de vieille haine et ressentiments familiaux. Alors, Yann Moix, enfant martyr ou manipulateur, Florence Lustre, je vous trouve très naïf, cela fait des années que Yann Moix parle de son enfance maltraitée, j'ai travaillé des années auprès d'enfants martyrs, je n'ai jamais cru Yann Moix, il ne fait rien d'autre que de compiler différents récits d'enfants martyrs ou Delphine Blanchard de La Roche-sur-Yon, cher masque, ce soi-disant récit de Yann Moix est puant, verbe poseur bien loin de la simplicité évoquée dans votre émission par Frédéric Becbédé, dans le genre, le Eddie Bellegueule d'Edouard Louis était plus poignant, résilient et donc touchant. Cette affaire, ajoute justement Laurent Lebar, n'est pas sans rappeler la controverse qui a accompagné la sortie du livre d'Edouard Louis, En finir avec Eddie Bellegueule, essai ou roman, l'ambiguïté autorise tous les excès dans les commentaires et fait franchir de nombreuses lignes rouges déontologiques. Eddie Ramos, d'un point de vue littéraire, le procédé qui consiste à se mettre en scène comme enfant martyr, puis à jeter le discrédit sur des gens qui ne le méritent vraisemblablement pas, et répugnant, enfin, car je ne peux pas citer tout le courrier reçu, Marion Cibla, à l'aune des confidences intimes d'Alexandre, l'autre Moix, bouleversante et même éprouvante, on n'a qu'une envie, c'est qu'un psy décortique ce roman vérité pour mieux nous l'expliquer. Donc, la question est de savoir, évidemment, auprès des critiques, notamment Olivia qui était avec moi ce soir-là, si l'affaire change, évidemment, l'affaire à laquelle s'ajoute une autre affaire, qui est l'exhumation de textes et dessins antisémites dans la presse cette semaine où on enregistre. Est-ce que cette affaire change votre regard sur le livre de Yann Moix. Je vous pose la question d'ailleurs collectivement, toi Olivia.
Mais je trouve un peu curieuses les réactions, parce que nous accuser de prendre la parole de Yann Moix pour argent comptant est une chose, mais les critiques que tu viens de lire prennent, elles, pour argent comptant, la parole de la famille. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que, tu le dis, nous sommes dans une émission littéraire où nous étions chargés de juger de la qualité littéraire du livre et pas de la véracité des faits. Je ne suis pas juge d'instruction et ce n'est pas à moi de dire qui a tort ou qui a raison. Et la dernière lettre était intéressante parce qu'elle disait qu'il serait tout à fait judicieux d'avoir l'avis d'un psy. Il y a eu une psy qui a fait une tribune dans Le Monde très intéressante, une psy qui travaille sur les enfants battus, dont j'ai malheureusement oublié le nom, qui expliquait que ce cas était tout à fait représentatif, selon elle, de la prise de parole des enfants battus, qu'elle était évidemment inaudible pour le reste de la famille, qui s'acharnait à tuer celui qui avait pris la parole pour dénoncer les faits.
Patricia ?
Malheureusement, je ne l'ai pas lu encore ce livre, donc forcément ma lecture sera polluée. Mais pour ce qui est des dégâts, effectivement, dans une famille, lisez le tout dernier Lionel Duroy, dans lequel il raconte justement...
Sauf que c'est le roman de la réconciliation.
Ah ben oui, mais la réconciliation au bout de combien d'années ?
Et de haine.
Et après combien de haine ?
Et combien de procès ?
Et combien de procès ? Donc là, on a tout compris. Bon, dès qu'on écrit, évidemment, ce genre de livre, forcément, on fait du mal.
Arnaud ?
Oui, c'est encourageant ce livre de Lionel Duroy. Peut-être que dans 10 ans, les Moix vont se réconcilier. Il y aura un très beau livre pour nous expliquer.
Et même peut-être toi te réconcilier avec la littérature de Lionel Duroy.
Oui, avec la littérature. Ça, j'aurais peut-être plus de mal en l'occurrence. Mais non, le livre de Moix est un beau livre. C'est un projet littéraire important où on voit bien qu'il a voulu imiter les mots de Sartre, c'est-à-dire raconter son enfance en tant que cette enfance le constitue écrivain. D'ailleurs, la division en deux parties, puisque chez Sartre, c'était lire, écrire. Là, c'est dedans, dehors. Il y a vraiment une résonance, y compris d'ailleurs dans le drapé stylistique, parce qu'il y a un classicisme dans la phrase chez Moix, là, qui n'est pas sans évoquer le classicisme qu'avait adopté Sartre à la surprise générale pour écrire les mots. On est, encore une fois, Olivier l'a dit, on n'est pas juste d'instruction, on est critique littéraire. On ne peut juger que de ça, c'est-à-dire de l'efficacité, d'un projet littéraire. Celui-ci est parfaitement réussi. Après, il y a toujours ce problème de... On l'a vu beaucoup et beaucoup à travers le thème de l'autofiction. C'est-à-dire d'abord, l'autofiction n'est pas un genre victimaire. Il y a eu trop de livres, trop de témoignages de victimes qui sont quand même de l'ordre de la paralittérature, qui n'ont rien à voir avec le projet de l'autofiction qui a pu être cruel. Souvenons-nous de Dubrovski, par exemple, l'un des pionniers du genre, qui avait été accusé d'avoir acculé sa femme au suicide lors d'une émission d'Apostrophe. Donc il y a toujours un danger, évidemment, à manier cette matière, mais en même temps, la littérature n'a rien à voir avec la société. C'est toujours ce qu'il faudrait rappeler, c'est que la littérature est un espace à part de l'espace social. Et donc, il y a toujours un moment quand le social rentre dans la littérature, évidemment, quelque chose explose et ça va mal.
Michel, un mot ?
Oui, un mot, vraiment un mot. J'ai lu le livre de Yann Moix avant l'affaire, tout ça. Je l'ai beaucoup aimé et je n'ai pas changé de ce point de vue-là. Ce que je pense simplement, c'est que c'est cette question, cette affaire de pollution qui m'intéresse. Je pense que si un livre est vraiment bon, il résiste à la pollution qui tente de le détruire.
Mais sauf qu'on est en 2019 et que...
Oui, mais fondamentalement, je peux pas aller plus loin que ça. Si le livre est vraiment bon, sa valeur profonde continue de briller malgré tout, malgré la déformation, malgré le mensonge, malgré tout ça. Alors, on va voir, c'est une épreuve de vérité.
Je rappelle que cette émission, évidemment, est toujours enregistrée en public et qu'elle est souvent enregistrée quelques jours avant sa diffusion. Donc, il faut aussi comprendre parfois que toutes les émissions ne sont pas en direct et donc on ne peut pas prendre toujours les éléments en compte. Et dans cette affaire, je le rappelle, ce sont des événements qui changent jour après jour, voire heure après heure. Une partie de Badminton, le nouveau roman chez Flammarion d'Olivier Adam, auteur... Vous le savez, de Poids léger, de Je vais bien, ne t'en fais pas, ou des vents contraires, roman si souvent d'ailleurs adapté au cinéma. Le héros de celui-ci, un personnage d'ailleurs récurrent chez Olivier Adam, Paul Lerner,
à 45 ans, ses derniers livres se sont peu vendus, il a perdu ses illusions à Paris, du côté de Montmartre, et dans le milieu culturel qu'il fréquentait. Et s'il revient là d'où il était parti, en Bretagne, près de Saint-Malo, où il accepte un poste de localier dans un hebdomadaire, il ne mesure pas que les ennuis vont le rattraper, ennuis dans sa vie conjugale, familiale, professionnelle, bref. Il doit composer avec ce qu'il appelle la loi de l'emmerdement maximum. Sa femme, qui enseigne le français à des réfugiés, le trompe. Je ne dis pas avec qui. Il perd son job. Son adolescente de fille part en vrille et disparaît. Une lectrice le harcèle. Et un de ses anciens amis se suicide. Il y a un épilogue que, évidemment, vous n'allez pas raconter. Qu'avez-vous pensé de cet Adam-là, Patricia?
C'est un roman très français, c'est-à-dire que c'est bien dépressif, avec cette routine un peu terne, la fatigue d'être soi, comme l'avait écrit le sociologue Alain Ehrenberg, avec cette incapacité à trouver sa place au fond et cette absence à soi-même, où on, une vie dans laquelle on se sent souvent humilié et trompé un peu sur la marchandise. Et on est vraiment dans la rumination pendant une très grande partie du livre, avec des maladresses, des lourdeurs de débutants, je dois dire parfois c'est un peu casse-pied, des propos attendus dans une sorte de melting pot où il prend, mais évidemment c'est la société telle qu'elle est, avec les choses qui arrivent, c'est-à-dire les banlieues, un coup c'est les attentats, les réfugiés, le racisme, la vie de bobo, l'écologie, il y a même à un moment donné on voit apparaître Nicolas Hulot en Bretagne, le monde de l'édition et du cinéma, enfin... Tout ça est un petit peu compose un petit peu cette sauce. On se dit que ça peut être c'est un peu facile parfois et qu'il y a des stéréotypes. Néanmoins, je trouve que il a quand même Olivier Adam le talent de décrire le quotidien, l'angoisse qui monte, les nuits blanches, l'incompréhension entre les êtres, les rapports avec sa fille ado sont.
Enfin, t'es d'accord qu'il a pas beaucoup de peau quand même, hein, parce que ça, il est un peu cumulard dans les ennuis quand même.
Mais tu sais, c'est quelquefois mais là, c'est un malheur beaucoup. N'arrive jamais seul. Et mais alors, la fin, là, franchement, là, j'ai trouvé ça formidable. Parce qu'il y a quand même un... Ah si, moi, j'ai bien aimé. Il y a un suspense inouï. Et où là, tout à coup, il se réveille. Il y a du nerf. C'est quand même... Non, franchement, toi, tu mets tout à la poubelle. Moi, pas du tout.
Moi,
franchement...
Ah non, moi, j'ai rien dit. Hein.
Non, tu fais des mous...
Parce que j'ai peur que tu racontes la fin. Ben, c'est tout.
Je ne raconterai pas la fin. Et quant à cet ami qui se suicide, c'est ce double inaccessible Aurélien, je me demande s'il n'y a pas là une clé d'Olivier Adam.
Mais on rappelle que c'est un roman que les proches, la famille d'Olivier Adam ne nous écrivent pas. Ce n'est pas. C'est une fiction. Michel.
Alors, je suis assez proche de ce que vient de dire Patricia. J'ai été sensible à l'ambition de ce livre qui a poussé Adam à se lancer dans une affaire pareille parce que c'est un gros livre avec une sorte de cahier des charges effectivement auquel il ne manque rien. Il ne manque absolument aucun bouton de guêtre à ce costume de roman d'apprentissage qui fait retour sur lui-même.
C'est pas un roman d'apprentissage, au contraire.
Non, mais ce qu'il nous raconte, c'est
les illusions perdues
personnelles, ce qu'il a, un désir de réussite, une ambition littéraire, et puis une désillusion, une défaite, un repli, etc. Donc il y a tout ça. Et donc ce n'est pas rien de se lancer dans un projet comme ça. Le seul véritable problème pour moi, tout bêtement, c'est que ça ne m'a pas retenu. Enfin, il y a une sorte de sincérité chez Adam. Et j'admire la sincérité, je l'approuve, enfin je la recherche, je souhaite être sincère. Mais malheureusement, là, il y a une sorte de poussière d'ennui qui accompagne le...
Mais qui va bien avec le sujet, quand même.
Oui, mais encore faut-il qu'on soit pris, enfin, c'est toujours cette histoire, l'ancien.
Bon.
Est-ce qu'on est pris ou pas? J'ai pas été pris, j'ai fait l'effort de suivre jusqu'au bout.
C'est bien. Olivia.
Oui, moi j'ai fait le même effort, mais... Je trouve que c'est un livre très plat, très désagréable à lire, parce que je pense que l'un des grands ennemis de la littérature, c'est l'aigreur et l'amertume. Or, c'est vraiment l'histoire d'une sorte de double d'Olivier Adam, puisqu'il s'amuse à donner dans la biographie de ce héros des éléments de sa propre biographie, notamment par l'adaptation de ses livres au cinéma. Tout d'un coup, il parle d'Isabelle Carré. Donc, il y a beaucoup de vrai. Or, c'est vraiment un type d'une amertume folle qui n'a plus de succès. C'est difficile de faire la part des choses. Je trouve que cette amertume...
Ce qui n'est pas le cas d'Olivier Adam, qui a toujours beaucoup de lecteurs. Hein.
Oui, oui.
C'est son personnage qui n'a
mais
plus de succès.
Cette amertume, elle contamine, je trouve, beaucoup le livre. C'est un type qui a une vision de la littérature épouvantable, qui est uniquement le nombre de lecteurs, le nombre d'apparitions publiques, les ventes. Mais on a envie de dire, mais la littérature, qu'est-ce qu'il écrivait, ce type? Est-ce que c'était de la littérature? Est-ce que c'était intéressant?
On est toujours surpris de penser qu'il a écrit un livre, c'était son premier, qui s'appelait « Poids léger ». Et c'était un très beau livre.
Très bon livre sur la boxe, sur très la bref, boxe. Qui était...
Remarquable.
Là, c'est très très long.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Et il y a un problème de langue. Lui-même, d'ailleurs, le héros dit qu'il aime parler comme un charretier. C'est un mec qui est en colère, il a tout perdu, sa femme, son boulot et tout. C'est écrit comme le prospectus d'un Novotel quand vous arrivez dans votre hôtel le soir et on vous dit « il y a des boissons chaudes à disposition ». Il y a certaines pages où il a des vrais problèmes avec sa femme et il lui dit « tiens, si tu buvais une boisson chaude, je vous jure ». Quand on se dispute avec sa femme et qu'on apprend qu'elle a une liaison, non, on ne lui dit pas « est-ce que tu veux une boisson chaude ?» Non. Enfin, en tous les cas, pas dans ce que j'imagine. La troisième chose, je trouve que c'est un livre qui est totalement dénué de charme, alors que le titre en a. Moi, j'aime bien ce titre, une partie de badminton.
Ouais.
Et malheureusement, si on lit le livre, on découvre que ce n'est pas un titre de lui, c'est un petit extrait d'une chanson d'Alain Chamfort qui dit que la vie...
Il y a toujours d'ailleurs beaucoup de chansons dans ces livres. Hein,
voilà. Je trouve que la seule chose qui a sauvé, c'est le petit garçon. Et la manière dont il a de parler de son petit garçon est très tendre et très jolie. Mais non, c'est un livre vraiment très ennuyeux.
Arnaud.
Il trouvait ça pathétique, presque sale en fait. Il y a une saleté profonde dans ce livre parce que il y a justement Yann Moix dans Orléans dit à un moment que être écrivain c'est pas une profession, c'est un métier. Et là, bizarrement, Olivier Adam en parle comme d'une profession. C'est-à-dire que il s'intéresse effectivement à savoir s'il va pouvoir retourner au Japon avec ses enfants en fonction de ses ventes. C'est une vision de la littérature la plus déprimante que j'ai jamais vue. Et encore une fois, presque dégoûtante. C'est-à-dire que c'est un écrivain raté, seconde division. À un moment, Olivier Adam, il faut le savoir, a été longtemps, et il risque de le rester encore, le souffre-douleur de Frédéric Bédé. Et il raconte que Bédé, oui. Et que Bédé l'appelle ouin ouin. Mais là.
Mais moi, je crois que c'était inventé, ça, non? C'est vrai?
Non, je pense que c'est pas du tout inventé. Et là, franchement, on a affaire à super ouin ouin. C'est comment je vais payer le loyer, et heureusement, ça se finit bien pour lui. Il va retourner au cinéma et qu'il y reste, franchement. Qui nous débarrasse de la littérature. Là, je pense qu'il devrait faire une pause, Olivier Adam. Ah non, sérieusement. Et d'ailleurs, l'écrivain qui se suicide, la vision qu'il a de la littérature.
Non, là, on va arrêter là. C'est la phrase sur laquelle on va s'arrêter.
L'écrivain qui se suicide?
Non, parce que t'es en train de. Tu me fais peur, là.
Non, mais il y a un personnage.
Oui. C'est le Aurélien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Il y a peut-être là la clé parce que le Aurélien, il a de l'imagination. D'ailleurs, la mère du personnage.
Je n'en sais rien.
Elle lui dit, mais si, elle n'arrête pas de copain, lui reprocher, c'est Aristo, etc.
Raconter sa vie.
Il a de l'imagination. Alors que toi, tu ne fais que raconter nos histoires de famille. Elle le lui dit à un moment donné.
Bon, une partie de badminton, c'est chez Flammarion, c'est Olivier Adam. Le continent de la douceur, le nouveau roman, 500 pages. Je vous préviens, chez Gallimard, d'Aurélien Bélanger, le romancier toujours inspiré de la théorie de l'information, de l'aménagement du territoire et du Grand Paris. Et là, on est au cœur d'une Europe qui d'ailleurs plane décidément sur cette rentrée littéraire. Bélanger donc invente le royaume du Karst, qui est une principauté située du côté de l'ex-Yougoslavie, dont la capitale est évidemment Karsberg, dont la principale ressource est la céramique. Et le citoyen le plus célèbre, un mathématicien, et j'oubliais la plus grande invention, c'est ce calculateur cylindrique.
Et la Spitz 2000.
Absolument, mais je vais te laisser en parler, je sens que ça t'a inspiré ça. Cette minuscule principauté devenue indépendante, grâce à la volonté d'une banquière de Wall Street, Ida, bientôt princesse, grâce à la fortune d'un philosophe français, alors je vois pas du tout qui ça peut être, à chemise blanche et à initiale, QPS. Grâce aussi à la folie visionnaire d'un écrivain nationaliste, une histoire qui se déroule dans l'Europe des années 80 jusqu'au début à peu près des années 2000. Je trouve que l'idée est forte. Je l'avoue sincèrement, j'ai eu du mal quand même avec ces 500 pages. Je pense que le sujet aurait pu se faire de manière un peu plus brève. Michel ?
pour des raisons de déontologie éditoriale, je vais passer mon tour, je vais vous écouter avec un très vif intérêt.
Je rappelle que évidemment Michel est le patron, mais ça, c'est une réaction qui t'honore, le patron de la Nouvelle Revue Française et qu'il est également au comité de lecture de la Maison Gallimard. À bientôt Michel, parce qu'on a beaucoup de livres. Beaucoup de livres de chez Gallimard dont on va parler dans les semaines qui viennent. Donc, si tu veux revenir en janvier, tu es le bienvenu, Arnaud.
J'adore Aurélien Bélanger. Je pense que c'est un de nos plus grands jeunes romanciers qui est toujours, comment dire, il ne fait aucune concession, y compris d'ailleurs à son lecteur, qui ne ménage pas, effectivement.
Dans celui-là particulièrement, je trouve, plus que
oui,
dans les
en
autres.
En même temps, il faut quand même noter une chose par rapport aux trois précédents romans, c'est que celui-ci est rédigé en chapitres très courts. Je pense que quelqu'un lui a dit « Attention », parce qu'avant, c'était d'une seule pièce. Hein. C'était 500 pages de la même manière.
Le Grand Paris, c'était un bloc.
Sans aucune respiration, oui. Alors que là, en fait, ça s'avale par petites bouchées. De quelques pages, les chapitres sont tous très courts, mais très denses, et notamment parce qu'ils sont augmentés par des exergues qui font qu'il y a d'autres niveaux de lecture. On peut dire que c'est saturé de niveaux de lecture, ce roman absolument prodigieux, extrêmement drôle aussi. Il y a un côté, évidemment, dans cette principauté imaginaire, quelque chose qui vient de Hergé, hein, du spectre d'autocar, on voit très bien la référence. Le portrait de BHL, car disons-le, c'est effectivement portrait de BHL.
Comment t'as trouvé?
Mais c'est-à-dire que c'est juste pour des raisons juridiques finalement que le nom a été changé, mais c'est une des particularités des romans de Aurélien Bélanger de prendre des personnages réels, puisque la théorie de l'information était une autre sorte.
C'était Xavier Niel.
Oui, de biographie imaginaire.
Le Grand Paris, il n'y avait que ça.
Il y avait Sarkozy, etc.
Absolument.
Là, il y a une discussion entre vraisemblablement BHL et François Mitterrand qui est totalement imaginaire, bien sûr, mais extraordinaire.
On rappelle que c'est un roman, hein.
Oui, oui, c'est un roman. Donc, parce que l'épisode, évidemment, de la guerre des Balkans, pour que cette principauté puisse exister, il va falloir la guerre des Balkans, dans laquelle, on le sait, BHL, avec l'opération à Sarajevo et avec Mitterrand, a été fortement impliqué.
Et où il a réalisé un film, d'ailleurs.
Oui, il a réalisé un film. Donc, tout est là, c'est-à-dire qu'il mélange l'histoire réelle et la fiction, et il développe une théorie qui est quand même un plaidoyer absolument incroyable pour l'Union européenne, pour la construction européenne, le continent de la douceur, c'est l'Europe. Et là, il y a une force politique aussi, une force utopique concernant l'Europe qu'on trouve rarement dans le roman. Tu disais, à juste titre, que l'Europe est omniprésente.
On va encore en parler avec Jean-Philippe Toussaint.
Avec Jean-Philippe Toussaint.
On en a parlé avec Laurent Binet la semaine dernière, il y a 15 jours.
Que vous avez massacré. J'ai failli vous écrire. Cher masque et la plume. Franchement, je n'ai pas l'habitude de vous écrire, mais là, une force irrépressible en vous entendant parler de Laurent Binet me fait prendre mon stylo.
Ah, tu vois ce que c'est que d'être de l'autre côté.
Ah oui, soudainement, là, j'ai trépigné derrière mon poste. Le livre de Binet est absolument remarquable. C'est un des plus grands romans de cette rentrée, cette imagination formidable d'imaginer le monde à l'envers avec les Incas qui prennent possession de l'Europe au lieu de l'inverse, c'est absolument magnifique.
Bon,
d'une certaine manière, la même
ambition
se retrouve chez Aurélien Bélanger. Alors effectivement, c'est saturé encore une fois de niveau de lecture comme une chanson compliquée des Beatles ou un opéra de Mozart, allons-y, puisqu'il est beaucoup de questions et des Beatles et de Mozart dans ce livre, mais c'est... si. Voilà, il y a quelque chose à manger, là. Il y a de la valeur nutritionnelle dans ce livre.
Olivia, tu as eu un peu de mal avec le roman de Laurent Binet cet été.
D'ailleurs, je le maintiens, j'ai eu énormément de mal et d'ailleurs...
Est-ce que tu as eu du mal avec le bouquin de
oui,
Bélanger?
Oui, j'avais beaucoup aimé le livre de Bélanger sur le décalque de Niel. Le Grand Paris, c'était terriblement compact. Moi, j'avais eu besoin d'un piolet pour l'attaquer. Là, j'étais plutôt avec des rames. J'ai beaucoup ramé. Il y a d'abord 40 pages d'équipée Sylvestre pour ouvrir le livre qui sont quand même...
Ah ben non, mais c'est vachement marrant, ça.
Ah oui.
C'est pas très marrant.
Avec Dominique Strauss-Kahn, Stéphane Fuchs.
Tout seul dans
c'est drôle.
Comment vous dire? Je trouve que c'est le problème des romans à idées. Quand tu racontes le livre, je trouve ça formidable. Ce n'est pas ce que je lis, parce que je trouve que tout est trop long, tout est un peu mal fichu, tout a besoin pour moi de sous-titres. Après, les sous-titres, je les ai lus dans une excellente interview dans Le Nouvel Obs, ou dans un entretien croisé avec Laurent Binet, où Laurent Binet est prétentieux, il fait preuve d'un esprit de sérieux absolument monstrueux, alors qu'Aurélien Bélanger, il est drôle, il est sympathique.
Mais le livre aussi est drôle.
Moi, je crois que j'aimerais avoir Aurélien Bélanger pour ami, mais ne pas être obligée de le lire tout le temps. Comme ça, il m'expliquerait ses théories, il me raconterait l'Europe, moi qui suis une Européenne convaincue. Bon, après, il y a un personnage très drôle, c'est cette espèce de prince d'opérette qui est presque un personnage welbeckien.
Ah, le prince héritier.
Qui est idiot, qui est misogyne.
Il est très beau.
Le playboy.
Qui est une sorte de playboy.
Mais il est trop playboy.
Tout est un peu trop long. Mais je pense que ça va être un très, très grand écrivain. Il est tout jeune, hein. Il faut le laisser faire. À chaque fois, j'ai envie de le lire. Et puis, bon, voilà.
Patricia ?
Moi, j'ai bien aimé. Alors, c'est vrai que parfois, on est complètement paumé parce que l'histoire du tiers exclu, par exemple, en mathématiques, ou l'aporie de Diodore, c'est pas forcément des concepts qui me sont familiers. Mais alors, moi, j'ai aimé effectivement ces personnages qui, comme les mathématiques d'ailleurs, se passent très bien de psychologie. Et pourtant, Dieu sait si moi, j'aime la psy. Mais là, justement, il n'y en a pas. Et je trouve que ça se fond très bien dans le bouquin. J'ai aimé la démesure, précisément, qu'il y a là-dedans. Parce que, d'abord, il s'étonne de tout. Il trouve le monde bizarre, ce mec. Et moi, je trouve que c'est formidable, les gens qui trouvent le monde bizarre. Et que ce qui est intéressant, c'est pas les réponses qu'on peut apporter à des questions, c'est les questions qu'on pose, finalement, sur le monde. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la métaphore que ça vous inspire. Et il y a une force des symboles là-dedans extraordinaire. Le fait de réduire, justement, cette Europe qui ne ressemble aujourd'hui plus à grand-chose. Non, parce qu'elle est quand même au-dessus du vide. La politique a changé, l'organisation... D'une manière générale, son organisation a changé. Pouvoir la réduire à une principauté avec finalement, si t'avais un dessin d'enfant à faire, tu ferais une colline avec trois arbres et un château fort au-dessus. Ça te résume l'Europe. Et c'est ça la force de son livre. C'est la métaphore, c'est l'image, c'est le symbole. Et encore une fois, cette démesure et sa facétie. Parce que la Spitz 2000 dont je parlais tout à l'heure,
ah oui,
c'est la Swatch des Balkans. Et c'est une sacrée jolie montre.
Voilà, donc c'est Le continent de la douceur, c'est chez Gallimard, d'Aurélien Bélanger, que tu as eu raison donc de prendre aux éditions Gallimard.
Tu l'as dit.
Le suivant est aux éditions de Minuit. On peut en parler des éditions de Minuit ?
Volontiers. Oui.
Donc toujours l'Europe avec la clé USB, le nouveau roman d'un écrivain que j'aime toujours, qui est Jean-Philippe Toussaint. Alors maintenant qu'il a clos son cycle romanesque et itinérant sur Marie de Montalt, qu'il a d'ailleurs rassemblé dans un gros volume passionnant, lisez-le si vous pouvez, qui s'appelle MMMM. Donc l'auteur de La Salle de Bain retrouve en partie du moins sa ville natale qui est Bruxelles. C'est là que travaille Jean de Trèze, le héros et narrateur de ce roman qui appartient à une unité de prospective stratégique donc de la Commission européenne. Il est ciblé par des lobbyistes, il se retrouve en possession dans un hôtel, qui est mieux qu'un Novotel, hein, en possession d'une clé USB qui contient des fichiers ultra confidentiels. Et il se voit offrir un voyage à Dalian, en Chine, où il se rend incognito, pour me suivre, hein, c'est compliqué, avant de participer au Japon à un colloque intitulé « Blockchain et Bitcoin Prospects ». Je ne connaissais pas le blockchain, j'ai appris. À son escale chinoise, on veut donc persuader ce fonctionnaire d'acheter des centaines de machines à miner. Je ne connaissais pas les machines à miner. Là, j'ai jamais autant utilisé Internet qu'avec ce livre. Rien, donc, dans ce voyage où Jean de Trèze disparaît des radars ne se passera comme prévu. Voyage pendant lequel, sans qu'il le sache, son père se meurt à Bruxelles. Son vrai père, d'ailleurs, Yvan Toussaint, était auteur de romans policiers. Il est mort il y a quelques années. Alors, une précision. Donc, pour goûter pleinement, comme je l'ai fait, ce roman d'espionnage, il faut maîtriser totalement, mais totalement, le monde de la cybersécurité, des devises virtuelles, la technique donc du minage de crypto-monnaies, ou ne pas être surpris, d'ailleurs, à la fin, je ne l'étais plus, d'apprendre que qu'Alpha Mineur 88 recelait une backdoor. On aurait dû d'ailleurs s'en douter. Mais une fois qu'on s'y fait, c'est évidemment très intriguant et passionnant. Michel ?
Alors, c'est un roman de John le Carré, sauf que c'est un roman de Jean-Philippe Toussaint. Et je trouve ça merveilleux. Je trouve ce livre un chef-d'œuvre de grâce, d'humour, de profondeur. On a dit, à juste titre, que cette rentrée était très européenne. En effet, elle l'est, mais le livre de Toussaint est une...
Mais tu es d'accord qu'il faut quand même connaître bien Le monde.
Non, alors parce que moi, je le connais pas. Je ne connais pas du tout. J'y comprends absolument rien.
Ah oui, d'accord. Mais moi, j'ai voulu comprendre. D'ailleurs, j'ai regardé, le livre coûte, je sais plus, 17 euros. J'ai regardé en bitcoin, ça fait 0,00018.
Non, et je trouve extraordinaire.
Moi, j'ai fait mon travail.
Je trouve très, très beau. C'est ça qui m'a profondément séduit dans ce livre. Je suis pas, a priori, un fan de tout ça. Enfin, je me précipite pas sur le dernier tout ça. Et je trouve fascinant cette espèce d'alliage qu'il a réussi à faire entre, d'un côté, la description d'un monde minéral, froid, le monde de l'administration, de l'Europe, de l'Union européenne, où personne ne va jamais, et donc tout le monde parle sans très bien savoir ce qui s'y passe, et en même temps, comme s'il avait, je sais pas, comme quand on essaye d'effacer quelque chose à cause de la buée, on essaye de clarifier la vitre, et de faire apparaître la figure du père, à la fin.
Oui.
Et ça, c'est très très beau. C'est très très beau parce que c'est vraiment pas du tout pesant, c'est pas artificiel, ça tient en l'air comme ça par miracle. Je trouve ça vraiment très fort.
Ce qui est très étonnant, alors pour le coup en termes d'espionnage, c'est aussi la manière dont on peut pendant 48 heures totalement disparaître, être inatteignable, alors qu'on travaille dans le virtuel, dans la cybersécurité, bon, mais il réussit la prouesse d'être, parce qu'il veut pas évidemment qu'on apprenne qu'un fonctionnaire européen est susceptible, évidemment, d'être acheté par les Chinois. Patricia.
Comment, quand t'as paumé, on va dire ça, ton ordinateur, tu es paumé toi-même.
Surtout quand on t'a paumé ton ordinateur, qu'on te l'a volé aux toilettes.
C'est un cauchemar, c'est absolument un cauchemar. La scène du vol de l'ordinateur, c'est un bijou.
Oui. Non, mais moi, j'ai pensé à OSS 117 ou version, tu vois.
Exactement. Mais déjà, ce que je trouve avec ce type qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une musique. C'est comme, je sais pas, quand vous entendez démarrer une Ferrari, vous savez que c'est une Ferrari, quoi. On sait tout de suite que c'est tout ça, c'est reconnaissable. Cette espèce de maniaquerie maladive qu'il a avec les mots, chaque terme, chaque virgule.
Il a bossé là. Hein.
Tout est pesé, le temps des verbes, si vous, rien que si vous regardez ça, vous en avez pour un moment, tout est millimétré. Tu parlais de froideur, il y a une espèce de fausse froideur, parce que tout paraît lisse, tout paraît logique, oui. Et en fait, à la fin, ça explose complètement. Et c'est fou ce qu'il arrive à dire en aussi peu de pages, parce que c'est totalement minimaliste. Et moi, je trouve qu'on comprend tout. Il fait vraiment un travail pédagogique.
Absolument.
Et ce qui est incroyable aussi, c'est la façon dont il est à la fois fasciné par le réel, mais en y gardant une morale. Parce que contrairement justement à ces informaticiens, ces jeunes informaticiens surdoués qu'il dénonce, dont il dénonce le côté justement froid et inhumain, qui sont fascinés, eux, par la technologie, mais si on n'est que fasciné, qu'il n'y a pas de morale, eh ben c'est foutu.
Olivia.
Ah, j'ai adoré. C'est un livre extraordinaire. C'est un livre compliqué qui se mérite un tout petit peu au début, mais comme toi, Jérôme, je me suis donné la peine de comprendre, alors que je suis nulle en technologie. Moi, je suis une enfant du Minitel. J'ai regardé les résultats du bac sur le Minitel. Et là, effectivement...
C'était, l'objet n'était pas beau, mais c'était utile.
Hein. C'était utile. Tu comprends. Et ce qui est extraordinaire dans le livre, c'est la manière, je trouve, dont il introduit progressivement du romanesque dans ce monde de technologie. Tout d'un coup, c'est le nom d'un gars qui prend contact avec lui, qui s'appelle John Stavropoulos. Hop, et vous êtes éveillé. Tout d'un coup, c'est une scène, il y a une scène de mariage.
Ça, c'est du RG, ça. Hein.
C'est un peu RG. Il y a une scène d'un mariage
quand même, tout ça.
Juste après le 11 septembre. Et tout d'un coup, il y a des gars qui transpirent, qui boivent de la bière et qui chantent sur Alexandrie, Alexandra. Et il dit, c'est ça les eurocrates que tout le monde déteste, que le monde entier honnit, c'est eux. Et puis, ça continue, ça monte. Et la scène dans les toilettes, moi, ça m'a mis en transe. C'est exactement pareil que lorsque, dans un de ses romans, il essayait de faire
rentrer... qu'on comprend pas vraiment comment...
Mais si, on comprend tout.
La main
arrive par dessus.
Par au-dessus.
Ou par au-dessus. Par
voilà, oui, ça change
la
tout.
Voix arrivée, il peut rien faire.
Et comment tu montes en haut des toilettes?
Et puis, tout d'un coup, à la fin, vous avez l'histoire d'un homme qui avait une angoisse et qui s'était inventé une angoisse pour s'en cacher une autre. Et vous avez un autre livre qui apparaît. Tout au début du livre, il dit que ce qui est beau dans les films de science-fiction, c'est que de toutes les inventions technologiques, la plus merveilleuse dans les films de science-fiction, c'est quand il pleut. C'est ça qui est beau et féerique. Il pleut tout le temps dans le livre, et c'est ça qui est sublime.
Arnaud.
Ah, c'est évidemment un pur chef-d'œuvre. J'ai adoré le livre d'Aurélien Bélanger, mais d'une certaine manière, Jean-Philippe Toussaint lui donne une leçon, là. C'est-à-dire que, en 197 pages, il produit finalement la même chose. C'est-à-dire.
Comme, entre parenthèses, comme chez Minuit, même éditeur, comme Jean Echenoz est capable de nous faire un Ravel en 130 pages, beaucoup plus efficace que les gros livres de.
Et là, c'est à la fois un immense plaidoyer, encore une fois, pour l'Union européenne. Il écrit, l'Europe est la pire des solutions pour ce continent, à l'exception de tout autre, le détournement de la fameuse phrase de Churchill. Donc il y a à la fois ce côté, et en même temps, on y est dans la Commission européenne, il nous parle des lobbyistes, etc. Il s'est documenté de toute évidence, et en même temps, tout ça va très vite. Hein. On est 197 pages, c'est tourné comme un petit polar, ce qu'écrivait son père, évidemment. Là, on voit bien l'idée, et avec des scènes totalement kafkaïennes, il y a une espèce le rapport à l'humiliation, à la honte, qu'il peut éprouver lorsqu'il se fait voler dans les toilettes son ordinateur, puis après lorsqu'il doit faire une conférence dont il a perdu les papiers, ce qui permet à Jean-Philippe Toussaint de nous éclairer. Moi, j'ai tout compris. Je n'avais jamais rien compris. Alors, au blockchain, je savais à peine de quoi il s'agissait. Mais même au bitcoin, et là, on comprend tout, encore une fois, avec une économie absolument incroyable. Et puis, la fin qui vous emporte. Et quand le livre s'est terminé, j'ai tourné la page en pensant qu'il y avait encore quelque chose derrière.
Oui, la fin, d'ailleurs, où il se demande, le Jean de 13, pourquoi il a si peu d'émotion. Très intéressant.
Ah, le dernier mot, là, le mot, la dernière phrase.
Bon, allez, on vous conseille tous La Clé USB, c'est chez Minuit, et c'est le nouveau roman de Jean-Philippe Toussaint. Et là, je me répète, mais je vous conseille de lire tout Toussaint. Allez, on va aller un peu plus vite, il reste moins de temps. Une bête au paradis de la romancière et poétesse Céline Coulon, qui avait eu le prix des libraires en 2017 pour 3 saisons d'orage. Et là, c'est aux éditions de l'Iconoclaste. Ça se passe dans un de ces lieux qu'affectionne beaucoup Olivia, c'est-à-dire en pleine nature, dans une ferme isolée au bout d'un chemin de terre, appelée le Paradis. Et là, Emilienne élève seule ses 2 petits-enfants, Blanche et Gabriel. Ils vont grandir. Blanche rencontre et va aimer Alexandre. Et puis, à l'âge adulte, le couple se déchire. Alexandre veut partir pour la ville et Blanche rester au paradis. C'est, dit l'éditeur, le roman fiévreux d'une lignée de femmes envoûtées par ce qu'elles ont de plus précieux, leur terre, et dont Cécile Coulon dit qu'elle l'a écrit en pensant à La Nuit du Chasseur de l'automne et au film de Chabrol. Arnaud,
nul.
Ah non.
Alors d'abord, je l'ouvre, je lis comme ça une page au hasard, ce que je fais souvent comme ça pour tester. Je tombe sur la phrase « Il pivota sur lui-même ». Bon, c'est mieux que de pivoter sur les autres, mais au bout d'un moment, surtout, j'étais obnubilé. Et alors, je m'aperçois que tous les personnages pivotent, parfois sur eux-mêmes, parfois il y en a même un qui pivote difficilement sur lui-même. Sans doute des problèmes d'arthrose, etc. C'est plus des personnages, c'est des derviches tourneurs. Quand elle ne sait pas quoi en faire, elle est fait pivoter. Okay. Alors, où ça se passe, effectivement? À quelle époque ça se passe? Au bout d'un moment, j'ai vu passer un tracteur. Parce que, c'est la fête aux cochons, hein. Il faut le dire tout de suite, ce livre, c'est la fête aux cochons. Donc, il y a une fille qui se fait dépuceler pendant qu'on tue le cochon dans la cour. Bonjour la poésie. Quand même, Cécile Coulon a eu le prix Guillaume Apollinaire, qui a fait le prix Goncourt de la poésie. Donc là, vous vous dites, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas comment. Et de quoi ça parle?
Est-ce que c'est une dynastie de femmes.
Mais il n'y a pas une dynastie, il y en a deux. Il y a la grand-mère et la petite fille. Enfin,
parce que la mère n'est plus là.
Ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est sur la condition des agriculteurs qui se font voler leurs terres, etc.? On ne comprend rien, on s'en fout. C'est mal écrit. Ça n'a aucun sens.
Mais moi, j'ai trouvé ça vachement bien écrit. C'est sur la sauvagerie.
Patricia Martin.
La sauvagerie des hommes, la sauvagerie des animaux, c'est des histoires de déflagration.
Mais même pas, il n'y a pas de sauvagerie des animaux du tout dans ce livre.
Mais bien sûr, à la fin, excuse-moi, ce que font les cochons.
C'est pas de la sauvagerie.
Mais il y a un
Les cochons, c'est des cochons, ils ne sont pas sauvages.
La fin est terrible.
Enfin, qu'est-ce qu'ils font, les cochons, à la fin? Enfin, on ne va pas le raconter, mais flûte. C'est enfin, bien sûr que c'est sauvage.
Mais ça n'a rien à voir avec de la sauvagerie.
Je crois que ça n'est jamais arrivé.
C'est une manière de maquiller.
Je trouve que elle est étonnante, cette fille, parce qu'elle est très jeune. Moi, j'avais lu 3 saisons d'orage déjà qui m'avaient énormément plu. Et je trouve qu'il y a encore une fois quelque chose de très symbolique. C'est fort comme une tragédie antique. Ça a des accents raciniens. Il y a une vérité,
Patricia.
Des corps, il y a une vérité. Il y a une vérité,
c'est
des sentiments.
Ferme,
il n'y a pas de cochon chez Racine.
Il y a une violence. Il y a une violence dans les rapports absolument incroyable. Moi, je trouve que c'est l'homme dépassé, aussi civilisé soit-il, dépassé par sa propre nature. J'ai trouvé que c'était un très, très beau livre qui est hors du temps. Il est hors temps, hors espace, et il est universel.
Michel ?
Je trouve que c'est un livre symptomatique de notre époque.
Ah, en quoi ?
Je voudrais le dire en deux, trois mots. Je trouve que plus on entre dans un monde que décrit Toussaint, digital, abstrait, liquide, sans substance, sans solidité...
Plus on a besoin de cochons.
Et du coup, il y a comme une sorte de phénomène quasi biologique qui se produit
et qui
fait surgir ce genre de livre, ce genre de roman, qui sont fascinés par la sauvagerie du lien passionnel, du lien familial. C'est un livre profondément archaïque. La fin du livre, on peut quand même le dire, enfin le héros du livre, Alexandre, qui est une espèce d'Apollon du Belvédère, magnifique, et en même temps qui incarne le mal moderne, le mal de la modernité qui va tout détruire et qui est lui-même dévoré par les cochons.
Mais non, Michel.
Ça se fait pas.
Il a raconté la sauvagerie des cochons.
Vraiment, vous êtes dépendant, je trouve, du scénario.
Mais ils sont pas sauvages, ils mangent, c'est tout, ils se nourrissent.
Oui, non.
Mais t'as peut-être des gens qui vont l'acheter. Alors là, je vais te dire que tu as abîmé les lectures de nos auditeurs.
Non, mais non, pourquoi? Ça fait partie.
Tu viens de raconter le seul suspense, c'était ça. C'est que...
Tu parles d'un suspense?
Bah, ouais. On le devine quand même 150 pages avant. Hein.
Olivia.
Alors, c'est très curieux parce que moi, j'ai aimé tous les livres de Cécile Coulon, que je trouve ultra doué, et celui-là est nul.
Nul.
Alors, vraiment nul. Ah. C'est une sorte de drame paysan. On a l'impression de lire en noir et blanc. Vous voyez, c'est assez curieux. Ou alors, c'est du niveau des sagas de TF1, Le sang des vignes, l'été.
Non.
Avec des personnages
qui sont pas si mal.
Tellement stéréotypés.
Oh là là, ouais.
C'est méchant pour Le sang des vignes, tu as raison, Michel. C'est la grand-mère, comme c'est une paysanne, elle est forcément taiseuse, elle a forcément du bon sens.
À ce mot de taiseuse.
Il y a beaucoup de taiseux, ils sont tous taiseux, oui, qui se parlent. Oui. Le bellâtre, forcément, qui a l'air tellement gentil, il est méchant, enfin, tu vois, moi, je ne fais pas la différence.
Mais comme on sait maintenant ce qui va lui arriver à la fin, c'est pas
grave. Oui, bah non, mais c'est dégueulasse, ça.
Vous me remercierez.
Personne ne te remerciera.
Vous ne le lirez pas. Et il y a un vrai problème spatio-temporel.
Bah oui.
C'est-à-dire que à un moment, elle s'essuie les mains, et là, on se dit, elle va s'essuyer les mains sur son jupon. Ça se passe il y a longtemps. Pas du tout, elle est en jean, avec un t-shirt d'ailleurs un peu large, mais propre. Et oui, les paysans sont propres. Non, c'est... Bon, alors on se dit, bon, alors c'est aujourd'hui. Et puis quelques pages plus loin, ils disent qu'ils vont décrocher le combiné du téléphone. Est-ce que quelqu'un parle encore aujourd'hui comme ça ?
Oui, chez Michel Crépu, oui.
Dri !
J'ai trouvé que c'était...
Allô ?
Un peu dégoûtant, et puis tout d'un coup, Hannibal le cannibale, là, non.
Bon, allez, une bête au paradis.
Lisez-le, vous ne le regretterez pas.
Bon, maintenant qu'ils savent la fin, c'est Cécile Coulon à l'Iconoclaste, une poignée de minutes pour me dire ce que vous pensez de Rien n'est noir, le roman que consacre Claire Berest à Frida Kahlo et Diego Rivera chez Stock. Je ne compte plus les écrivains qui ont parlé du couple, je pense évidemment à un livre qui était très bien de Luc Lesio, chez le même éditeur Stock d'ailleurs. Quant au cinéaste, le dernier c'était Julie Taymor, où Frida était jouée par Salma Hayek. Bref, Claire Berest raconte à sa manière l'histoire désormais légendaire de la belle et sombre artiste mexicaine dont la vie et le corps furent brisés à 18 ans par un terrible accident de bus. Elle rencontra le muraliste Diego Rivera, sorte de pachyderme de 20 ans, son aîné, qui peignait à fresque et qu'elle épousa en 1929. Donc c'est évidemment une histoire très lyrique et passionnelle, comme le livre, comme ces héros qu'on connaît, mais qu'on peut peut-être découvrir ou redécouvrir dans Rien n'est noir. Vous me dites juste assez rapidement si oui ou non, et vous le conseillez, Olivia ?
Ah oui. Alors qu'au début, on se dit « Oh, encore Frida ». C'est magnifique à cause
grâce à
la langue, parce que je trouve que la langue, elle est sonore, elle a vraiment une fièvre, pour le coup, qui va extrêmement bien avec le sujet. Et au-delà de Frida et Diego, C'est pour moi le plus beau livre d'amour de la rentrée, de gens qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, mais qui se font du mal. J'ai trouvé que c'était...
Ah, qui se font beaucoup de mal, hein.
Beaucoup, beaucoup de mal. Et puis, elle connaît son sujet sur le...
L'amour violent, quand même. Hein.
Elle se permet des choses très amusantes. Elle fait intervenir Picabia et Deschamps, qui étaient les amants de sa grand-mère dans son précédent roman, Gabriel. Je trouve que c'est virtuose. Et en plus, vraiment déchirant.
Arnaud,
ça se lit. Ça se lit, non mais c'est vrai, tu as raison, il y a une espèce de lyrisme qui essaye d'emporter un petit peu l'affaire. C'est un biopic très scénarisé, hein, il est prêt à filmer quasiment. C'est très,
mais ça a été
très,
fait beaucoup, très... encore une fois, au cinéma, beaucoup.
Oui, mais là, on voit bien, là, c'est vraiment, voilà, c'est scénarisé, chaque chapitre, c'est une scène, on pourrait la filmer telle qu'elle est écrite, mais ça fonctionne, ça vous emporte, ouais, ça va.
Dans le film d'ailleurs de Julie Témoin, la fameuse scène terrible de l'accident de bus... était à peine montrée tellement elle est, quand on l'a décrit.
Et là, elle est remarquablement bien racontée.
Parce qu'elle est racontée pendant la première nuit d'amour.
C'est une scène abominable.
Et je trouve que...
Et c'est très difficile à faire. Et Claire Berest, il va avec une énergie, une espèce de... Et je trouve qu'elle évite tous les pièges qu'il peut y avoir dans cette histoire. Voilà, il y a vraiment... Elle ne sombre pas dans le politiquement correct, parce que ça serait facile aussi d'incriminer Diego Rivera, etc. Non, pas du tout. Elle raconte vraiment cet amour.
Pas victorieux de certaines scènes quand même avec les Ford par exemple, c'est elle qui est quand même la plus rigolote.
Il n'est
avec
pas
Henry Ford. Tellement drôle
coupable.
Le dîner avec Henry Ford.
Le dîner avec Henry Ford,
elle avait un esprit fou. Hein.
Avant, on va demander à Michel ce qu'il en pense.
Oui, ça parle trop fort pour moi.
C'est... Ça quoi?
Ça parle trop fort. Ils parlent tous trop fort dans ce livre.
Ah, ils sont pas taiseux. Hein,
ils sont pas taiseux. On n'est pas du tout dans un drame paysan.
Ah non, il y a aucun cochon là. Enfin, à part éventuellement un peu Diego Rivera de temps en temps, mais.
Et en même temps, finalement, c'est un peu un drame paysan. Quand même.
Un drame paysan.
C'est un peu un drame. Oui, non, mais enfin, ils sont. On a l'impression tout le temps d'être dans une espèce d'étable où on crie.
Non, mais là, on parle du livre de Claire Berest sur Frida Kahlo. Et...
Tout à fait. L'auteur
ça
des
se passe principalement aux États-Unis.
Oui.
Pendant la guerre américaine.
Dans une étable.
Où il y a peu de cochons, peu d'étables.
Oui, ben oui, mais j'ai ressenti ça. Je venais de lire l'autre là. Et...
j'étais encore. M'insurge.
Donc non, je trouve que ça parle fort, et c'est un peu creux. Je suis désolé. Il y a beaucoup de verbes, il y a beaucoup de lyrisme, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de chatoiements, de cris, encore une fois. Mais finalement, pas grand chose en définitive, pas grand chose. Alors c'est pour ça que les petits cochons.
Pas très sûr.
Et ce qui t'a pas plu, c'est vrai que c'est un couple pathologique, hein. Ils sont en fusion volcanique permanente, mais ça devait être insupportable effectivement de les voir quand ils se...
C'est surtout insupportable pour le lecteur.
Ah non, pas du tout, absolument pas. Et tu faisais allusion, Olivia, tout à l'heure, justement, à leur première nuit d'amour au tout début, quand elle lui dit, mais tu sais, je suis toute cassée de l'intérieur, mais ça ne se voit pas. Et lui, il lui dit, je te vois.
Ouais.
Et malgré son égoïsme, parce que ça devait quand même être, il devait être pas mal de ce point de vue-là, effectivement, certainement, il dit vrai. Et je trouve aussi que tous les dialogues autour de la peinture, des formes, des couleurs, est absolument extraordinaire. Ouais. Quand Cocteau, cette façon de passer la porte pour elle, l'art, c'est passer la porte. Et Cocteau lui dit, mais c'est vous que j'aurais dû faire jouer dans mon film d'Orphée. Et là, et quand elle parle avec Marcel Duchamp aussi des couleurs, justement, c'est magnifique. Non, c'est un très, très, très beau livre.
Couleur, mais le titre, c'est « Rien n'est noir ». Et c'est donc Claire Berest chez Stock. Allez, un conseil de fin d'émission. Est-ce que vous avez un premier roman à nous conseiller, Arnaud?
Oui, alors j'aurais aimé conseiller Alexandre Labruf « Les chroniques d'une station-service », mais Frédéric Bédé l'a fait dans la dernière
émission. Il y a 15
jours. Ouais. Il a bien eu raison parce que c'est un superbe premier roman. Mais j'en ai un autre. J'en ai lu plusieurs des très bons premiers romans. Il y en a un qui m'a plu beaucoup aussi qui s'appelle Protocole gouvernante de Guillaume Lavenant. Et vraiment, c'est un premier roman tout à fait extraordinaire. Toutes les phrases sont écrites à la seconde personne du pluriel et au futur. Et donc, il s'agit bien d'un protocole. C'est l'histoire d'une gouvernante qui se fait embaucher chez un couple, un jeune couple qui vient d'avoir un enfant. Elle doit s'occuper de l'enfant. Ça se passe en province. Et tout de suite, ça devient très mystérieux. C'est à la fois très formel à cause de cette construction, avec ces phrases qui rappellent évidemment la modification de Michel Butor, cette manière d'écrire à la deuxième personne et au futur, mais qui sont aussi ce protocole qu'elle doit exécuter, cette gouvernante, et qui va mener vers une... C'est une espèce de lance-thriller révolutionnaire, tout à fait étonnant, mystérieux, très lent aussi, il faut s'accrocher un peu, mais à la fin, un petit peu comme chez Toussaint, est sublime.
Le conseil d'Olivia.
Alors, je triche un tout petit peu. C'est un troisième roman, mais l'auteur a 30 ans et les deux premiers romans, personne ne les a lus. Donc, on peut dire que c'est presque un premier roman. Cela s'appelle Les Fillettes de Clarisse Gorokoff aux Équateurs. Et c'est vraiment une merveille. C'est l'histoire de trois petites filles et de leur père qui tentent de résister à la dévastation causée par l'addiction à la drogue de la mère. Et c'est à la fois le portrait d'une femme magnifique, intelligente et dévastée par le réel et qui, pour le fuir, se drogue et qui tente de lutter pour l'amour de ses petites filles. Et en même temps, c'est vraiment le portrait de la mère par les trois petites filles qui sont vraiment très peu âgées. Et elle zoome comme ça sur tous les personnages. C'est très, très délicat. Vraiment, et en plus, écrit avec beaucoup d'allure et de panache. C'est très beau. Ça s'appelle Les Fillettes.
Aux éditions des Équateurs. Mon conseil, après Olivia, j'en remets une couche parce que c'était un choc pour moi et je ne saurais trop vous conseiller de lire ce premier roman de la jeune Victoria Mas. Comme toi, Olivia, Le bal des folles, chez Albin Michel, qui est un portrait de groupe absolument saisissant de ces femmes qu'on internait à la Salpêtrière, à l'époque de Charcot, et que la bourgeoisie parisienne venait observer de près lors de ce fameux bal de la mi-carême. Bal des folles, grande maturité, je trouve, dans l'écriture, roman à la fois historique, neurologique, ouvertement féministe, parce qu'on voit comment on traitait les femmes à l'époque, toutes les femmes,
des plus jeunes. Il suffisait d'être belle pour être.
Voilà, il suffisait d'avoir dit. Et on vous enfermait à la Salpêtrière, et la scène finale, pour le coup, de ce bal des folles, qui a bien existé à la fin du 19e, est très. Vraiment, lisez Le bal des folles, oui.
Et c'est officiel, elle a reçu le prix Stanislas, le prix du premier roman,
alors,
décerné au Festival
voilà.
de Nancy.
Donc, j'en remets une couche après toi, et franchement, je vous le conseille. Patricia.
Ce que je suis d'Olivier Dorchamps chez Finitude. Alors c'est l'histoire d'un prof d'histoire géo qui réussit bien dans la vie, il est plutôt bien en France, il est agrégé, etc. Puis à un moment donné, son père meurt assez vite au début du livre et il se demande bien pourquoi ce père qui est marocain,
garagiste à Clichy,
veut être enterré, enfin sa dernière volonté c'est d'être enterré au Maroc. Et il se demande pourquoi, puisqu'il a fui avec sa femme, ils sont partis d'un pays qu'apparemment il n'aimait pas, et pourquoi est-ce qu'il veut y être enterré. Et avec ses frères, il se pose la même question, sauf que les frères disent, mais nous on bouge pas, lui il y va, il s'appelle Marwan, il accompagne donc le corps de son père jusqu'au Maroc, et là il va découvrir toute une histoire familiale par le biais d'une grand-mère qui va lui raconter comment elle, enfant kabyle, elle a été vendue à des Marocains. Et la suite, je ne vous la raconterai pas, je ne vais pas faire comme Michel.
C'est pas joyeux. Ce qui est très étonnant, c'est que moi je l'ai lu aussi, c'est que
c'est
Dorchamps qui est d'origine...
Il est franco-anglais.
Qui est né à Genève, sur les bords du Léman.
Oui, c'est ça.
A une faculté très simple et très juste de parler au nom des Marocains. Et aussi de ceux qui ont une double identité qui est tout à fait remarquable. C'est chez Finitude, qui est un bon découvreur de premier roman, entre parenthèses. Michel.
Alors moi, je vous conseille, je vous oblige pas, c'est un conseil, ça s'appelle La débâcle, chez Lafon. L'auteur s'appelle Romain Slocombe, il est franco-britannique. C'est les 5 premiers jours de juin 40.
Mais c'est pas un premier roman, je crois pas.
Mais non, mais non, Romain Slocombe,
c'est pas un premier roman.
Slocombe, il en a écrit beaucoup, beaucoup.
Oui,
mais c'est son sujet, un peu.
Et moi, j'ai trouvé ça, c'est le premier livre de lui que je lisais.
Et donc, en quelque sorte, c'est un premier roman pour toi.
Pour moi, ça a été un premier roman.
C'est bien, il écrit depuis au moins une bonne vingtaine d'années.
Ah oui. Ben, je trouve ça très fort, très très fort, remarquable.
Et c'est chez Robert Laffont.
C'est chez Laffont, oui. Ça s'appelle La débâcle. Très beau mot.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Olivia de Lamberterie, Patricia Martin, Michel Crépu et Arnaud Vivian, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Sella. Mais ce soir, au théâtre de l'Alliance française à la technique, il y avait, et je les remercie, Marie Lepeintre, Julie Garraud, Pierre Henry. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Attention, attention, le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, il aura lieu le vendredi 13 septembre. Ce sera à l'Opéra National de Lorraine à Nancy, à l'occasion de la 41e édition du Livre sur la Place, pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de littérature et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.